Marielle Savoie.
Les États-Unis et la Chine réussiront-ils à mettre fin à leur guerre commerciale? Les négociations se poursuivent aujourd'hui dans la capitale chinoise et vous l'entendrez, dans ce conflit, Pékin compte bien se servir de la Corée du Nord. Publier une petite annonce pour recruter des membres d'un conseil d'administration. La méthode n'est pas courante, mais c'est pourtant celle qu'a choisie la Banque Alternative Suisse. Explication dans un instant. Et puis, la visite de la dernière chance. Après un premier échec le mois dernier, une équipe de l'Agence mondiale antidopage se rend aujourd'hui en Russie. Elle espère récupérer les données des contrôles de l'ancien laboratoire de Moscou. Le train de Kim Jong-un vient de quitter Pékin, selon des journalistes de l'AFP. Le dirigeant nord-coréen est arrivé hier en Chine à l'invitation du président Xi Jinping. Une visite survenue au moment où une équipe de négociateurs américains se trouve justement dans la capitale chinoise pour tenter de mettre un terme à la guerre commerciale entre Pékin et Washington. Michael Pecker, on vous retrouve en direct de Shanghai. La visite de Kim Jong-un est un message que la Chine envoie aux États-Unis.
Oui, Pékin veut régler son différend commercial avec Washington. Xi Jinping est prêt, certes, à offrir des carottes à Donald Trump sous la forme de concessions, mais il le rappelle, il dispose aussi du bâton nord-coréen. La Chine est le principal partenaire de la Corée du Nord. Plus de 90% du commerce nord-coréen transite par elle. Et Pékin a accepté le principe des sanctions drastiques à l'encontre de Pyongyang, un blocus économique clé pour Donald Trump dans ses négociations avec Kim Jong-un en faveur de la dénucléarisation complète de la péninsule. Mais sans la coopération de Pékin, la stratégie de pression maximale des Américains n'est tout simplement pas possible.
La Chine pourrait reprendre toute ou partie des échanges avec Pyongyang si le conflit avec les États-Unis n'est pas résolu.
Alors c'est une option. Hein. Le gouvernement chinois a officiellement nié toute volonté de lier ces deux affaires. Il n'empêche, le timing est assez intéressant. Kim est venu à Pékin à la veille d'une nouvelle rencontre avec Donald Trump, annoncée pour les semaines à venir. L'occasion d'accorder ses violons avec son principal allié, Xi Jinping. Son déplacement, c'est aussi une démonstration de force pour le président chinois, lui qui subit depuis plusieurs mois une intense pression de Washington avec des taxes commerciales qui ont très durement frappé le pays.
Alors on l'a dit, Michael, parallèlement à ce balai diplomatique, il y a aussi les négociations entre les équipes chinoises et américaines. Des nouvelles de ce côté-là ?
Les discussions devaient se terminer hier soir, elles se poursuivent aujourd'hui, signe de la détermination quand même, la volonté des deux parties de sortir de la crise. L'économie chinoise souffre, les marchés américains s'essoufflent, on le sait, Pékin est prêt à des concessions mais pourra pas remplir toutes les demandes américaines. Toute la question est de savoir jusqu'où Donald Trump est prêt à céder du terrain, mais le ton pour l'instant est résolument optimiste.
Michael Pecker en direct de Shanghai.
Et pendant ce temps aux États-Unis, Donald Trump n'en démord pas. Il exige 5 milliards 700 millions de dollars, c'est la même chose en francs, pour construire un mur en acier à la frontière mexicaine.
Dans une allocution télévisée à La Nation, cette nuit, le président des États-Unis a réitéré ses exigences. Pas question pour lui de mettre fin au shutdown des administrations fédérales tant qu'il n'aura pas obtenu le financement de cette promesse de campagne. La réaction de l'opposition ne s'est pas fait attendre. Les démocrates accusent le président de prendre les Américains en otage. Chuck Schumer, sénateur de New York.
Il n'y a pas de défi que notre nation n'est pas capable de relever. Nous pouvons faire redémarrer le gouvernement et en même temps continuer de résoudre nos désaccords politiques. Nous pouvons sécuriser nos frontières sans un mur inefficace et coûteux. Et nous sommes capables d'accueillir immigrants légaux et réfugiés sans mettre en danger notre sécurité. Le symbole de l'Amérique, ce doit être la statue de la liberté et non un mur de 10 mètres de haut. Nous vous faisons une suggestion simple, Monsieur le Président. Faites redémarrer l'administration. Dès lors, nous pourrons travailler à résoudre nos désaccords sur la sécurité aux frontières, mais surtout, mettez fin à ce shutdown.
Et c'était la réaction de Chuck Schumer, sénateur de New York. Une dizaine de pays européens se disent prêts à accueillir les 49 migrants qui se trouvent sur deux navires humanitaires au large de Malte. Les bateaux qui sont affrétés par des ONG allemandes errent en Méditerranée depuis maintenant 18 jours dans l'attente d'une autorisation d'accoster. Malte exige que les Européens procèdent à une répartition de ces migrants en prenant également en compte plus de 200 autres réfugiés qu'elle a accueillis récemment. Exigence acceptée par les pays volontaires. Selon La Valette, les discussions pourraient être bouclées dans les prochaines heures.
Carlos Ghosn reste derrière les barreaux.
Selon l'agence de presse Gigi, le tribunal de Tokyo a rejeté ce matin la demande de remise en liberté du PDG de Renault. Carlos Ghosn est détenu connu depuis le 19 novembre pour des soupçons de malversation financière en tant que dirigeant de Nissan. Sa période actuelle de détention doit prendre fin vendredi, mais le parquet pourrait formuler des accusations supplémentaires, des accusations susceptibles d'entraîner une nouvelle arrestation immédiate.
Le haut commissariat aux réfugiés de l'ONU demande à l'Australie d'accorder l'asile à une jeune saoudienne qui a fui son pays.
Raaf Mohamed, 18 ans, s'était retranché le week-end dernier dans un hôtel de Bangkok et c'est grâce aux réseaux sociaux qu'elle a pu sensibiliser la communauté internationale. Simon Cortet.
Il y a une semaine, Raaf Mohamed était inconnu sur Twitter, mais depuis le week-end dernier, la jeune saoudienne qui aurait profité d'un voyage au Koweït pour quitter sa famille maltraitante a été suivie par le monde entier. Sa fuite a tourné court lors d'une escale en Thaïlande où des agents saoudiens lui auraient retiré son passeport. Ses appels à l'aide sur les réseaux lancés de la chambre où elle s'était enfermée ont mobilisé la communauté internationale et jusqu'au HCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Lundi dernier, la jeune femme apeurée pouvait quitter sa chambre, escortée par des représentants du HCR. Dans la foulée, les autorités thaïlandaises promettaient de ne pas la renvoyer dans son pays. Ce mercredi, avec cette perspective d'asile accordée par Canberra, Raaf Mohamed se rapproche de la réalisation du projet qu'elle avait depuis le tout début de sa fuite, se réfugier en Australie.
Simon Cortet, merci beaucoup.
Le ministère public genevois veut élargir son enquête sur Pierre Maudet.
Il en a fait la demande au Grand Conseil. Après le voyage à Abu Dhabi, la justice s'intéresse aux relations que le conseiller d'État entretient avec le groupe hôtelier Manotel. Les soupçons portent également sur une éventuelle acceptation d'avantages. Selon le communiqué publié hier par le ministère public, Manotel a viré plus de 100 000 francs à des associations liées aux magistrats, mais aussi financé une soirée d'anniversaire de Pierre Maudet à hauteur de 20 000 francs. Nous recherchons des membres du conseil d'administration. C'est l'annonce qu'a publiée récemment la Banque Alternative Suisse dans la presse romande. La pratique est assez rare puisque les entreprises font généralement marcher leur réseau de connaissances pour recruter un nouveau membre du conseil d'administration ou de la direction. Mais Romain Bardet, ce mode de recrutement pourrait bien se développer.
Cette façon de faire n'est pas nouvelle pour la Banque Alternative Suisse, qui se définit comme la principale banque éthique du pays, avec des objectifs sociaux et écologiques. Ses statuts lui imposent en effet une diversité au sein de ses organes dirigeants. Ouvrir ses postes à un large public offre plusieurs avantages, selon Nicole Bardet, responsable de la banque en Suisse romande.
Ça fait partie vraiment des valeurs de la Banque Alternative, cette transparence. Ça peut permettre à des personnes de postuler qu'on n'aurait pas connues. C'est ce qui s'est passé par le passé. Les personnes qui sont dans notre conseil ne font pas partie de notre cercle de connaissances. Et ça ouvre par rapport aux idées et par rapport à la représentation, que ce soit de nos actionnaires ou de nos clients.
Mais ce système peut s'avérer peu performant, selon Diane Reinhardt. Elle possède un cabinet de recrutement et elle est l'une des fondatrices du Cercle Suisse des Administratrices, une association qui défend la diversité et les compétences au sein des organes de gouvernance.
L'inconvénient, c'est que l'entreprise reste assez vague quant au profil. Les bonnes pratiques veulent qu'on engage des administrateurs qui vont vraiment apporter un plus par rapport à l'orientation stratégique souhaitée. On va pas dévoiler ses orientations dans une annonce. C'est pas comme quand on recherche une personne pour un poste exécutif.
Pour Diane Reinhardt, le phénomène reste très marginal en Suisse, tout comme les sociétés qui font appel à des recruteurs pour dénicher de nouveaux membres. Mais selon elle, la tendance est en train d'émerger car les entreprises cherchent à diversifier leur conseil d'administration, un mouvement appuyé notamment par toute la discussion autour des quotas et la place des femmes au sein des organes dirigeants.
Après un bénéfice record de 54 milliards de francs en 2017, la Banque Nationale Suisse s'attend à achever l'année 2018 dans le rouge. La BNS table sur une perte de près de 15 milliards de francs, conséquence notamment d'une perte de valeur de quelque 16 milliards sur les devises étrangères qu'elle détient.
Et chiffre toujours, le commerce de détail a perdu 16 000 emplois en 10 ans en Suisse. Concurrence internationale oblige et l'hémorragie devrait se poursuivre.
Telle est la conclusion d'une étude publiée hier par Crédit Suisse. Depuis le printemps dernier, le nombre d'emplois dans la branche a reculé de 0,7% et la stagnation du pouvoir d'achat a aussi pesé sur la consommation, Olivier Chorderet, notamment celle des produits non alimentaires.
Si les ventes globales dans ce secteur ont reculé de 0,8% par rapport à 2017, la chute atteint 9% pour l'habillement. Le climat doux de l'automne a entravé les ventes d'articles d'hiver, mais c'est bien la concurrence des chaussures et vêtements vendus sur Internet par Zalando qui a fait mal. Une société allemande qui n'existait pas il y a 10 ans, mais devenue aujourd'hui incontournable. Une concurrence étrangère toujours plus douloureuse, les écarts de prix n'ayant cessé de se creuser entre la Suisse et l'étranger. Cette pression devrait se renforcer, d'autant que les consommateurs helvétiques sont parmi les plus frileux criant d'e-commerce. Des achats en ligne de produits non alimentaires que l'entrée partielle d'Amazon sur le marché suisse, via son accord avec la Poste, devrait doper. Mais comme la Suisse héberge déjà de puissants acteurs du commerce sur Internet, affirment les auteurs de l'étude, il n'y aura pas de raz-de-marée.
Trois experts de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, sont attendus en Russie aujourd'hui. Leur mission, recueillir les données de l'ancien laboratoire de Moscou. Ces informations pourraient conduire à l'ouverture de nouvelles procédures disciplinaires contre des sportifs ayant bénéficié du système de dopage institutionnalisé. Les explications d'Alain Thévaux.
Cette réunion est celle de la dernière chance après l'échec de la précédente visite à la mi-décembre. La tâche s'annonce ardue et aléatoire, d'autant plus que l'AMA devra authentifier les données, puis récupérer les échantillons des sportifs s'ils n'ont pas été détruits ou falsifiés, afin de les réanalyser. Le comité exécutif de l'AMA tranchera sur la base des recommandations d'un organe de sanction. Martial Sauji, directeur du Centre de recherche et d'expertise des sciences antidopage à Lausanne.
L'opération consiste à donner tous les résultats qui étaient stockés dans le laboratoire et dont certains de ces résultats vont permettre d'ouvrir des cas ou de confirmer des cas de dopage d'athlètes russes dans cette période avant fin 2015. Maintenant, il n'est absolument pas question de réaccréditer le laboratoire. L'équipe du laboratoire n'existe plus. Le laboratoire, maintenant, c'est en fait un bâtiment vide qui contient des données et des échantillons. C'est un processus qui va prendre beaucoup de temps parce qu'il faudra que la Russie fasse la demande pour entrer dans un processus d'accréditation. Il y a des agences nationales européennes qui surveillent, supervisent et qui aident RUSADA à être conforme par rapport aux règles.
L'enjeu est donc important pour la Russie, bannie des derniers Jeux Olympiques ou de compétitions internationales d'athlétisme. Pour l'heure, seuls des athlètes propres et triés sur le volet sont autorisés à concourir sous une bannière neutre.
Et puis en ski alpin, la Slovaque Petra Vlova a réussi un exploit hier au slalom nocturne de Flachau en Autriche. Elle a remporté la course en devançant de 15 centièmes l'américaine Michaela Schifrin. Meilleure Suissesse, Wendy Holdener se classe quatrième.
Et ben voilà qui dit merci Marielle Savoie, vous êtes sur la première, nous aussi, et il est 8h12.